Kevin, tu nous en as glissé un mot dans ton dernier rapport d'actualité. Développement majeur dans l'affaire de Jonathan Bété, principal suspect dans la saga Cédrica Provencher qui s'est débutée lors de sa disparition en 2007. Il a été acquitté hier d'accusation de possession de pornographie juvénile. Le juge a même été extrêmement dur envers la couronne en disant que l'enquête de la SQ c'était une expédition de pêche et qu'ils avaient violé les droits fondamentaux de Bété. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que celui qu'on croyait et que bien des gens croient toujours être le meurtrier de Cédrica Provencher, je dis bien croit parce qu'il n'a jamais été accusé de ça, mais pour qu'est-ce qui s'est passé pour que ce gars-là soit aujourd'hui un homme libre de toute accusation? C'est la question que je vais poser à notre prochain invité, Maître Vincent Momigny, qui est avocat criminaliste. Maître Momigny, bonjour.
Bon matin, messieurs.
Expliquez-nous, grosso modo, pourquoi le juge a-t-il acquitté Jonathan Bété hier?
Eh bien, j'ai eu l'opportunité, là, entre le moment où on s'est parlé hier et ce matin, de parler à mon confrère, Maître Carrette, lequel représentait M. Bétis. Là, je salue son travail. J'ai eu accès au jugement du juge. Alors, je suis en mesure de vous dire pourquoi, de façon plus détaillée.
OK.
Ce qui a été décrit comme une opération, une partie de pêche par la poursuite, c'est que les policiers qui ont effectué le travail d'enquête et qui ont colligé de l'information ont ce qu'on appelle souvent en droit le tunnel vision. C'est-à-dire que M. Bétis a toujours été considéré par les policiers comme le suspect numéro un. On n'avait pas envisagé d'autres, une fois qu'on avait cerné là, cette personne-là comme le suspect numéro un. C'est sur lui qu'on dirigeait nos enquêtes. Or, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites, non pas sous la base de motifs raisonnables, ce qui doit justifier l'émission d'un mandat de perquisition, mais bien, c'était plutôt des suppositions ou des circonstances dans lesquelles on disait « ça doit bien être lui ». Évidemment, on n'a pas présenté ça comme ça au juge. Lorsqu'on va voir un juge pour un mandat de perquisition, il y a un affiant, donc souvent un policier, qui va aller faire une déclaration sous serment qu'il a tel ou tel motif raisonnable de croire que si on perquisitionne soit un ordinateur, soit une maison, soit un véhicule, peu importe, on trouvera des éléments de preuve qui vont lier la personne à une infraction criminelle. En l'occurrence, ici, c'est de la pornographie juvénile. Mais ce qu'on a soumis au juge, c'était plutôt des suppositions. Et on a utilisé Facebook. Facebook a une procédure en matière d'urgence. Lorsque c'est urgent, alors que la situation est urgente, qu'il y a un risque de destruction de preuves, par exemple, on peut, sans autorisation judiciaire, donc sans mandat et sans ordonnance de communication, les policiers peuvent demander à Facebook des adresses IP, mais aussi, c'est là que le bas a blessé, des activités sur Facebook. Alors, les adresses IP, c'est une chose, mais les activités sur Facebook, Facebook nous donne un petit, excusez-moi l'expression, un disclaimer qui dit que ça peut être public ce qu'on voit sur Facebook, mais nos activités sur Facebook, normalement, on a le droit de s'attendre que ça soit quand même protégé par une certaine vie privée, même si c'est un réseau public social. Donc, ce que le juge a reproché à la poursuite, c'est que lorsqu'on a retrouvé les ossements de la victime, Mademoiselle Provencher, eh bien là, on a réactivé l'enquête de pornographie juvénile contre M. Bétis en invoquant qu'il y avait une urgence. Il n'y avait pas d'urgence. Malheureusement, on avait à ce moment-là la conclusion de la recherche de la demoiselle en question. Elle était bel et bien décédée. C'était bel et bien ses ossements à elle. Donc, il n'y avait pas d'urgence comme telle à faire une demande à Facebook. Facebook a coopéré parce qu'on l'a véhiculé l'idée qu'il y avait une urgence. Et par la suite, Facebook a divulgué certaines adresses IP aux policiers. Ces adresses IP-là ont servi à investiguer les différentes activités sur Facebook et sur Internet des adresses IP en question, qui, eux, ont été la base des affidavits pour les mandats de perquisition généraux. J'insiste sur le mandat de perquisition général parce que c'est pas la même chose de perquisitionner une maison que de perquisitionner un ordinateur. Les policiers, peut-être savaient-ils qu'ils n'avaient pas suffisamment de motifs pour obtenir une perquisition d'ordinateur, parce que les juges sont plus frileux un petit peu. Ils vont mettre certaines balises où on peut regarder telle ou telle chose, mais pas telle ou telle chose. C'est pas un examen at large de tout ce qu'on a fait dans notre vie sur notre ordinateur.
Mais même mon mini, il y a une affaire, par exemple, que je commence à comprendre, mais qui m'apparaît quelque part peut-être illogique. Vous allez probablement pouvoir m'expliquer pourquoi c'est logique, finalement, là. Mais pourquoi dans le cas d'un gars qu'on soupçonne d'avoir tué une fillette, pourquoi dans ce cas précis-là, le soupçon qu'il y a de la pornographie juvénile sur son ordi n'est pas un soupçon valable pour perquisitionner l'ordinateur? Il me semble que c'est tellement un cas grave. Ce que je comprends, bref, c'est que la fin justifie pas un moyen, mais ils ont quand même trouvé de la pornographie juvénile dans l'enquête qu'il y a sur une jeune fille qui a été assassinée. Là, il y a un lien meurtre d'enfant, pornographie juvénile, mais ça justifie pas la méthode qu'ils ont pris pour faire ces découvertes-là.
Je vous répondrai en deux parties. C'est-à-dire, en tant que citoyen, je pense exactement comme vous. Quelqu'un qui ne travaillerait pas en droit et particulièrement en droit de la défense se dirait, oui, il y a un lien. Effectivement, quelqu'un qui va, et il y a fort à parier, là, pas certain si l'enquête nous le dit sur le meurtre de Cédrica Provencher, mais on peut facilement déduire qu'il y a eu probablement agression sexuelle également avant le décès. Donc, le lien se fait, là. Quelqu'un qui est capable de passer à l'autre étape d'agresser sexuellement et de tuer un enfant, nécessairement commencer quelque part, c'est probablement par le graffiti. Ça, ça tient comme raisonnement pour un citoyen. Pour un juriste, par contre, il n'y avait pas de preuves liant les deux. Et c'est un raisonnement qui est logique, mais qui n'est pas juridique. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette fille-là est disparue, a été agressée et par la suite, malheureusement, tuée, qui a un lien avec M. Béthez, avec la pornographie juvénile, et qu'on peut faire la corrélation. Ah, cette personne-là est morte. Et d'ailleurs, on n'avait pas de preuves contre M. Béthez pour le meurtre. On s'est dit, on va se réessayer par la bande via une demande d'autorisation pour avoir accès à son ordinateur pour de la pornographie juvénile. D'un coup, ça nous donnerait une possibilité d'avoir de la preuve dans le dossier de meurtre. Mais on peut pas. Si on fait un mandat pour un dossier de meurtre, ça doit avoir rapport avec les faits du meurtre. Si on fait un mandat pour la pornographie juvénile, c'est pour la pornographie juvénile.
Je pense que c'est un peu ça qui sème la confusion parmi la population. Puis moi, je m'inclus là-dedans parce que, écoute, je trouve ça enrageant. Mais d'un autre côté, c'est quand même, c'est ce qui est enrageant, c'est qu'ils ont trouvé de la porno juvénile dans l'ordi du gars, pis on peut pas l'accuser d'avoir eu de la porno juvénile à cause de la méthode, tu sais, la façon dont ils ont, les enquêteurs ont obtenu cette information-là, cette preuve-là. C'est ça que quand on n'est pas juriste puis qu'on n'est pas formé puis qu'on connaît pas le droit comme vous, Maître Momigny, c'est ça qui nous enrage parce qu'on se dit, la preuve, elle existe, tout le monde le sait, tout le monde la connaît.
Ben oui.
Mais on peut pas l'accuser, tu sais.
Et surtout dans quelque chose qui suscite autant le dégoût qu'une agression sur un enfant, sur la pornographie, quelque chose qui nous touche tous. On a tous des enfants, on a tous des neveux, des nièces. On va dire les vraies choses, ça écœure ces crimes-là. Et c'est d'autant là que la population fait le même raisonnement que vous. Ben écoute, il y en a de la preuve. Donc, et ce qui est encore plus choquant, je vous dirais, pour la population, et c'est un peu mon lance-pierre aux policiers, n'eût été de la façon dont la job a été faite, il aurait été possible d'avoir ces éléments de preuve-là, mais de façon légale. Ça aurait pris plus notre temps. Et on avait moins fait valoir qu'il y avait une urgence, qu'il n'y avait pas d'urgence. Donc, je comprends qu'on voulait là, accélérer. On trouve les ossements parfaits, vitesse grand V, on clenche pour la première étape d'avoir un lien avec la pornographie juvénile et ensuite, on réactivera l'enquête de meurtre.
C'est
et c'est ça qui est le plus désolant pour la population et probablement les proches de Mme Provencher également, c'est que on avait de la preuve. On peut pas l'utiliser parce qu'elle a été obtenue en violation des droits de l'accusé, mais on aurait pu l'avoir différemment et ça aurait fonctionné. Et on l'aurait eu, cette preuve-là. Et où est-ce que ça nous aurait mené? On le sait pas, mais on a tous une petite idée.
Ouais. Je vais vous faire entendre quelque chose, Maître Momigny, parce que c'est pas la première fois que j'écoute District 31. Je le sais que ça peut avoir leur farfelu, mais c'est pas la première fois que j'écoute ça puis qu'on fait il y a des liens, en tout cas, qui nous apparaissent évidents avec d'autres différentes situations. Là, écoute, c'est arrivé dans l'épisode de jeudi tout récemment, mais il y a une phrase qui a résonné dans ma tête. Je veux vous la faire écouter parce que il y a vraiment cette phrase-là. Je me suis dit, j'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé dans le cas de l'enquête de Cédrica Provencher. Écoutons, puis on revient.
Écoutons,
tu penses qu'elle a fait ça?
Hey, Daniel, tu sais aussi bien que moi qu'il y a des affaires qu'on sait qu'on peut juste pas prouver.
Bah, ça, je pourrais t'en parler longtemps.
Es-tu d'accord avec ton partner?
Ben là, je te dis, bon, on a rien. On l'arrête, on la questionne, puis si elle dit rien, on la relâche.
Il y a des affaires dans la police qu'on sait, mais qu'on peut pas prouver. Je suis seul à penser que...
Hein? Et à la cour aussi. Et à la cour, je voudrais que... On voit souvent ça, des juges qui vont dire « Je vous crois pas, monsieur. » Je vous crois pas. Je suis et on voit là, en tant qu'avocat que le juge embarque pas dans notre défense, qu'il nous croit pas, mais qu'il a seulement un doute. En fait, lui, il le sait. Mais le fardeau de la preuve, c'est hors de tout doute.
C'est ça.
Donc, on dit souvent à la cour, une tonne de soupçons, ça équivaut pas à un gramme de preuve. Donc, il y a des choses qu'on sait, mais qu'on n'est pas capable de prouver. Parce qu'on l'a pas, cette preuve-là, mais on les sait. Les policiers travaillent à tous les jours. Il y en a de l'instinct policier, du flair policier, ça existe. Par contre, et ce qui est fâchant pour autant les policiers que la population, surtout au risque de me répéter pour un crime aussi odieux que ça, c'est que on le sait, on ferait les liens, mais on n'est pas capable de les amener à la cour parce que ça respecte pas le fardeau de la preuve.
Puis dans le cas de Cédrica Provencher, sentez-vous que c'est un peu ça qui est arrivé finalement? On n'a rien pour l'accuser de meurtre. Finalement, on trouve les affaires de pornographie juvénile. On y voit une occasion de le mettre en dedans pour ce qu'on est sûr qu'il a fait, mais qu'on n'est pas capable de prouver. Puis là, ben, dans la confusion des deux, les mandats, on comprend qu'évidemment, il peut pas y avoir cette confusion-là. Puis c'est là que ça pète finalement.
Ben, on peut pas tirer la pierre pour quelque chose d'autre en se disant, on va te prendre pour quelque chose qu'on n'est pas capable de prouver. On va te trouver un petit quelque chose qui va justifier ta détention. Mais, pour faire le tour et boucler la boucle, c'est que ça avait été fait différemment et je peux me mettre dans la peau des policiers et c'est des policiers de la région où le kidnapping et l'enlèvement s'était fait. Est-ce que ces gens-là se sentaient un devoir de rendre des comptes à la population? Regardez, on l'a, là. Ça a duré assez longtemps, là. Ça l'a stressé, ça l'a énervé tout le monde. Là, on va vous l'offrir, entre guillemets, sur la place publique.
Ça
a fait que ces gens-là ont coupé les coins ronds. Et malheureusement, ce qui en découle, on saura jamais la fin de l'histoire. On saura jamais la vraie vérité. Et malheureusement, ça va empêcher certaines personnes d'avoir, entre guillemets, un closure pour l'histoire. Et ça, à l'avantage de M. Bettez, lui, il n'y aura pas de procès. On ne saura jamais ce qu'il en est du reste des choses. Et ça, c'est peut-être dû à une trop grande excitation, une trop grande empressement des policiers à rechercher de la preuve qui aurait bien pu se faire de façon plus méthodique, plus longue et plus parfaite pour la cour.
OK, je vous laisse partir après, Maître Montminy, mais je veux quand même que vous me donniez votre avis là-dessus. Pensez-vous que Bété a une cause pour poursuivre l'État, disons, en plaidant que ses droits fondamentaux ont été bafoués, ont été violés? Est-ce qu'il y a une cause là?
Probablement. Est-ce qu'il va vouloir remuer d'autres actions en termes juridiques alors qu'il a été acquitté? C'est un meeting assez important qu'il doit avoir avec son avocat parce que, pour l'instant, il s'en sort bien. Il a été acquitté, la preuve a été rejetée. Est-ce que vraiment ça lui est avantageux de remuer d'autres instances, d'autres procédures? Je lui recommanderais probablement de fermer les livres là-dessus. Par contre, c'est quelque chose qui aurait le droit. Il a quand même eu une atteinte à sa réputation. Il a été des accusations comme ça, là, on est coupable avant même d'avoir eu notre procès. C'est-à-dire que sur la place publique, des accusations d'agression sexuelle, de pédophilie, d'agression, peu importe, lorsque ça touche des enfants, des femmes ou de la nature sexuelle, on est coupable avant même notre procès. Donc, effectivement, cette personne-là, quoi, qui a été acquittée par les tribunaux, est-ce que sur la place publique, vraiment, les gens pensent que M. Bettez est innocent? Probablement pas. Donc, de ce fait-là, il y aurait une base pour atteindre à sa réputation et diffamation, les pertes de jouissance de sa vie, au niveau civil, suivant son acquittement en cour criminelle.
OK. Merci, Maître Montminy, d'avoir pris du temps pour éclairer ça avec nous ce matin.
Je vous en prie. Bon week-end.
OK. Salut. Maître Vincent Montminy est avocat criminaliste. Il y a tellement de détails dans cette histoire-là. Puis, je pourrais jamais arrêter d'avoir un sentiment de haine envers le gars. Tu sais, c'est émotionnel, c'est émotif, là. Tu sais, mais moi, maudit, je suis content de ne pas être avocat puis de ne pas travailler dans cette. Pour ces genres de causes-là qui vont.
Mais ce que ça revient à dire, c'est que
toute la population qui vient nous chercher dans les tripes.
C'est que tu peux pas dire, hey, je veux un mandat pour X, puis, oh, by the way, j'ai trouvé Y, puis voilà. C'est juste ça que ça revient à dire. Puis ça revient à dire ce que je te disais tantôt. Ces procédures-là, ils ont une raison d'être.
C'est ça.
Ça fait dur, mais s'il y avait des procédures lousses, ça ferait pas mal plus dur.
Ouais, c'est ça, exact. Détail important, rectification peut-être, là. Yves nous écrit au studio commercial FM93.com, une autre personne au 25226 pour dire, en fait, c'est des liens qu'il aurait trouvé dans son ordinateur et pas des fichiers de pornographie juvénile.
Je te suis.
Vous avez raison, j'ai jamais dit qu'ils ont trouvé des fichiers de pornographie juvénile, j'ai dit, ils l'ont accusé de possession de pornographie juvénile.
Les activités, là, qu'il disait, c'est-à-dire, il a cliqué là, il a cliqué là.
C'est-à-dire que ce que je lisais, c'est ils ont trouvé des indices pouvant démontrer qu'il y avait eu de la pornographie juvénile.
Voilà.
L'accusation, c'est possession de pornographie juvénile.
Ouais.
Mais dans l'ordinateur, effectivement, c'était pas des fichiers qu'ils ont trouvés. C'était des liens ou des traces pouvant prouver que y en avait, machin. Mais ce qui est le nerf de la guerre, en fait, il est pas là de toute façon, parce que il semblait évident qu'ils seraient capables de prouver, tu sais, hors de tout doute, la possession de pornographie juvénile avec ce qu'ils avaient. Puis ils l'ont accusé pour ça, puis c'est pour ça que le DPCP a déposé poursuite. Mais c'est pas parce que la preuve finalement était pas suffisamment solide. C'est la manière avec laquelle ils l'ont obtenu cette preuve-là finalement, ouais, qui a été invalidée.